Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en 1113, quelques années après la prise de Jérusalem par l'avoué du Saint-Sépulcre, Godefroy de Bouillon. Pour la quatrième année de son règne, le pape Pascal II consacre la congrégation de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Plus connu sous le nom d'Ordre de Malte, l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem dépendait exclusivement de l'autorité du pape et non de celle de son évêque. Distingué par sa croix blanche à 8 pointes, l'Ordre de Malte nous est plus connu aujourd'hui pour son action humanitaire. 80 000 bénévoles permanents, 1 million de donateurs réguliers font vivre des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite ou bien encore des centres sociaux. Mais qui se souvient que cet Ordre de Malte fut d'abord un ordre militaire et religieux, engagé dans la défense des pèlerins et dans la préservation des lieux saints? L'Ordre de Malte, nous le verrons, a ses héros, ses saints, ses saintes, ses lieux d'histoire et de mémoire. Bertrand Gallimard Flavigny, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes écrivain, critique au Figaro, auteur de nombreux ouvrages sur les ordres de chevalerie, notamment « Ordre et contre-ordre de chevalerie », un ouvrage primé par l'Académie française, paru au Mercure de France, je crois, en 1982. Donc cet ouvrage a reçu un prix de la part de l'Académie française. Vous venez de publier chez Perrin une histoire de l'Ordre de Malte, une histoire très fouillée, vous y citez de nombreuses sources, et c'est un exercice d'autant plus difficile que vos recherches s'étendent finalement sur quasiment une période de 9 siècles. N'est-ce pas difficile, Bertrand Gallimard Flavigny, d'embrasser une telle période?
Vous me voyez encore à peu près debout, donc je suis pas complètement épuisé. C'est vrai que c'est assez difficile, mais en même temps c'est passionnant parce que, si vous voulez, tout s'enchaîne. Et j'ai voulu ce livre, qui est le premier depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, qui soit complet, parce qu'il y a des histoires de l'Ordre de Malte qui paraissent régulièrement, c'est-à-dire au cours des siècles. Et celui-ci, le dernier, date de 1968. Alors, non pas le dernier sur l'Ordre de Malte, mais une histoire complète de l'Ordre de Malte. Et je l'ai voulu thématique et chronologique, ou chronologique et thématique, comme l'on voudra, car ça m'a semblé, on ne peut pas mélanger toutes les choses, c'est tellement foisonnant, tellement important. Si vous voulez tout savoir sur les hôpitaux et sur la santé, sur la médecine pratiquée par les hospitaliers, vous avez 2 chapitres, car il y a plusieurs périodes. Si vous voulez tout savoir sur la marine, vous avez 2 chapitres sur la marine. Si vous voulez tout savoir sur les arts, vous avez 1 chapitre sur les arts. Tout savoir sur les saints et les saintes, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez également 1 chapitre, et ils s'inscrivent dans la chronologie. On s'arrête, mais on repart.
Votre ouvrage est vraiment au carrefour de l'histoire tout court, l'histoire religieuse, l'histoire militaire, l'histoire de l'art et même l'histoire de la médecine.
Oui, parce que ces hospitaliers-là vivent toujours, au bout de 9 siècles, comme vous le disiez tout à l'heure, et ils, intrinsèquement, ils ont participé à la vie, à la vie des Européens, à la vie de l'histoire, car on parle de l'Europe, mais les hospitaliers sont les premiers Européens. Il faut savoir que l'ordre a été divisé en un certain nombre de langues pour parler. Ces 8 langues se répartissaient en France, dans la péninsule ibérique, en Italie, en Allemagne. Et pourquoi des langues? Parce que, d'abord, les hospitaliers parlaient leur langue à eux. Ils ne parlaient pas latin, ou du moins, sauf qui étaient un peu lettrés. Par exemple, en France, il y avait 3 langues. La langue de Provence, la langue d'Auvergne, la langue de France. Pourquoi 3 langues? Parce qu'il est bien évident qu'à l'époque, je vous parle de ce temps qui était médiéval, les Français ne parlaient pas tous français. Un Provençal parlait Provençal, il ne pouvait pas correspondre avec un Français qui parlait la langue d'œil.
Donc, l'ordre, en soi, est supranational.
Il est supranational. Il est devenu un État, il est devenu véritablement supranational avec un État considéré comme tel quand ils sont installés à Rhodes. Là, on anticipe un peu sur l'histoire.
Parce oui, que nous y reviendrons.
On y reviendra. Et cette autorité, cet aspect international et l'État s'est conforté à Malte. Et aujourd'hui encore, l'Ordre de Malte est considéré comme souverain. Souverain, sui generis, donc il entretient des relations diplomatiques avec un certain nombre d'États, 98 pour l'instant, pas avec la France, car la France ne reconnaît pas l'Ordre de Malte comme un État souverain, mais autorise, écoutez bien la phrase, l'Ordre souverain de Malte a nommé un de ses ambassadeurs comme représentant officiel.
Ce
sont des subtilités diplomatiques, mais je ne peux pas rentrer... Enfin, moi, je dis je. En France, avec un passeport de l'Ordre de Malte, en revanche, je peux arriver, bon, maintenant avec l'espace Schengen, mais admettons, mais partons à ce moment-là pour l'Afrique ou l'Asie, puisque j'ai circulé avec des passeports de service de l'ordre de Malte, avec des visas émis depuis les chancelleries de Rome, avec des chancelleries d'État africains, au Liban, dans d'autres pays.
Alors, pour que les choses soient bien claires pour nos auditeurs, quel est le nom officiel de l'ordre de Malte et est-ce que ce nom n'a-t-il pas évolué au fil des années, au fil des siècles ?
Il a évolué ne serait-ce que par les lieux. La dénomination officielle aujourd'hui, c'est ordre souverain, militaire et hospitalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, virgule, de Rhodes, virgule, de Malte. Bon, raison très simple, c'est que la première congrégation s'appelait l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Je ne parle pas de mot ordre, ensuite. Ensuite, lorsqu'ils sont installés à Rhodes, donc nous sommes en 1310, c'était ces messieurs de Rhodes, donc c'était l'ordre de Rhodes, c'était les hospitaliers de Rhodes. Lorsqu'ils sont arrivés à Malte en 1530, c'est messieurs de Malte. Mais lorsqu'ils sont installés à Rome en 1830, on les a pas appelés ces messieurs de Rome, ils ont gardé leur appellation de ordre de Malte.
Oui, on parle, vous le dites dans votre ouvrage, on parle des chevaliers de Malte que dans la seconde moitié du XVIe siècle. Donc 4 siècles après la fondation officielle de l'ordre.
Parce que vous avez une dénomination, on parle d'ordre de chevalerie. Les ordres de chevalerie, pour beaucoup de personnes, ce sont des décorations. On dit toujours la Légion d'honneur est un ordre, n'est pas un ordre de chevalerie, mais il en est issu. Vous avez un certain nombre d'appellations comme ça. Donc il y a une sorte de confusion, entre chevalier et ordre. Alors, l'ordre de Malte est un ordre, pourquoi ? Parce qu'il obéit à une règle. C'est un ordre religieux au sens canonique du terme, avec des membres religieux. Le grand maître d'ailleurs est religieux. Il a même un rang cardinalis dans l'église. Il n'est pas cardinal, mais il a un rang cardinalis. C'est-à-dire qu'il vient juste après, dans le protocole bien sûr, après les cardinaux. C'est un religieux qui prononce ses 3 vœux de religieux, comme des moines, il n'est pas prêtre. Il y a des prêtres, il y a des chapelains qui sont chargés d'administrer les sacrements. Mais ça, nous retrouvons ça dans Saint-Bernard. Saint-Bernard disait, choisissez parmi vous celui qui sera le plus apte à devenir prêtre pour distribuer les sacrements. Car à l'époque, les moines n'accédaient pas forcément à la prêtrise. Voilà un peu aussi la raison. Et l'ordre de Malte est un ordre car il obéit une règle et c'est un ordre religieux. Alors pourquoi chevalerie ? Nous repartons au départ et nous sommes en 1113, 1118, 1120. Il faut savoir que après la prise de Jérusalem, bon nombre de croisés, enfin nous les avons croisés, mais ils ne s'appelaient pas comme ça, bon nombre de volontaires, de pèlerins.
Le terme de croisade est bien postérieur.
Il est bien postérieur. Oui, mais ce sont des historiens postérieurs qui ont trouvé cette dénomination. Étaient repartis chez eux. D'autre part, il y a eu cette fameuse bataille qu'on a appelée le champ du sang, qui a été un véritable massacre et les chrétiens ont été décimés. Donc on manquait d'hommes. Et militaires. C'est alors qu'apparu en 118, on pense que c'est en 118, ceux qui allaient devenir les Templiers, les pauvres chevaliers du Christ, qu'on a appelés les Templiers, et qui avaient été chargés, enfin qu'on se devait être plus ou moins, ils étaient attachés ou avec les chanoines du Saint-Sépulcre. Enfin, on ne va pas raconter l'histoire des Templiers ici, bien que s'il y a toujours un parallèle et un cousinage, ont été chargés de la police, et de protéger les pèlerins, de protéger tout ce qui se passait, parce qu'il fallait des hommes en armes. Et les hospitaliers, eux aussi, ont également pris les armes. C'est le premier maître élu du Puy qui a ajouté aux 3 vœux de religion celui des armes. Ce qui n'a pas été sans présenter quelques problèmes. Comment un religieux pouvait-il tuer ? Alors là, nous reprenons Saint Bernard et son fameux traité sur la chevalerie entre celui qui tient l'arme et qui ne tue pas car il est l'instrument de Dieu, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la plupart des hospitaliers étaient des anciens chevaliers, des militaires. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris leur épée qui avait été accrochée sur le mur de l'entrée, qu'ils n'utilisaient plus car ils étaient devenus religieux, ils les ont repris. Ils avaient déjà le service des armes. On n'est pas trop loin, 1099-1020. Ça fait à peine 20 ans. Donc ceux qui avaient 20 ans, ils en avaient 40. Même si on ne vivait pas très vieux à l'époque, ça correspond. Donc ils ont repris leur fonction de chevalier qui est celle du militaire. Le chevalier était le militaire. Et c'est la raison aussi, je fais une incidence, c'est la raison pour laquelle ces ordres de chevalerie, tels qu'on les appelle, étaient constitués donc par la noblesse. Parce que tout simplement, parce que la noblesse, c'était les chevaliers, c'était les militaires. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison. Ce n'est pas un ostracisme vis-à-vis des bourgeois ou autres. C'est comme ça que ça se passait. Donc il y a, vous avez tout d'un coup un ensemble de religieux qui redeviennent chevaliers. Leur ordre de chevalerie, c'est encore quelque chose qui est tout à fait récent. Moi, je dirais plus hors religieux militaire.
Oui, vous insistez beaucoup sur ce double accès. Ouais. Vous avez cité tout à l'heure Raymond Dupuis. Qui était ce personnage ? C'est lui qui fonde véritablement les hospitaliers ?
Non, c'est pas lui qui fonde les hospitaliers. C'est lui le premier. Si vous voulez, quand on dit toujours que lorsque les croisés ont délivré Jérusalem, il y avait des moines habillés en noir qui soignaient les malades. Voilà ce qu'on raconte. Bon, enfin, quand on en sait un petit peu plus, il y avait des laïcs qui devaient prononcer des vœux, qui n'étaient pas complètement religieux, on pourrait dire, je sais pas, des oblats, par exemple, qui soignaient les malades au sein d'un hôpital. Et cet hôpital était dirigé par un certain Gérard. Gérard qui, curieusement, d'ailleurs, n'a pas été tué par les... On les appelait les Sarrasins, on n'était pas encore aux Ottomans, les Ottomans sont arrivés au XIVe siècle, avait été chassé de Jérusalem et a pu renseigner les croisés. Et ce personnage qui a été déclaré bienheureux, c'est-à-dire que comme un saint à l'époque, et c'est lui qui avait véritablement fondé la congrégation. Il a régné autour de lui, ces hommes qui venaient pour le salut de leur âme et qui se sont dévoués pour soigner les malades. Et c'est lui qui a demandé au pape Pascal II, comme vous le rappeliez tout à l'heure, de bien vouloir consacrer, c'est-à-dire ce groupement, si vous voulez, comme une véritable congrégation religieuse.
Le soin des malades est donc bien à l'origine de l'ordre.
C'est l'essence même de l'ordre. D'ailleurs, c'est l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Le nom, c'est l'hôpital, c'est ceux qui soignent.
Alors oui, et d'ailleurs, vous citez dès les premières pages de votre ouvrage ces fameux amalfitains qui avaient créé...
C'est l'origine, oui, c'est l'origine. Oui. Tout est lié, on viendra depuis après. Dans l'origine, donc, les amalfitains. Alors, j'ai découvert, grâce à Alain de Mergé, qui est le grand historien des Templiers, que les Amalfitains en question seraient les Amalfitains qui étaient à Constantinople, et non pas à Amalfi. Donc, on finançait un hôpital, comme Charlemagne avait financé un hôpital bien avant.
Oui, de toute façon,
financer un hôpital.
Donc, pour les Amalfitains, c'est pour nos auditeurs, c'était des marchands.
C'était des marchands qui habitaient à Amalfi, donc en Italie. Et qui faisait un négoce qui passait par toute la côte Constantinople et qui allait jusqu'à Jérusalem, même, je pense, le Caire aussi. Car tout le monde circulait. De temps en temps, il y avait un groupement de musulmans qui arrivaient, qui prenaient le pouvoir, et on massacrait un peu les chrétiens, donc on s'agitait un petit peu, puis ça repartait, on s'arrangeait. Cette histoire n'arrête pas. On pourrait prendre des spécialistes qui vous décriraient par le menu toutes les périodes. Enfin, j'ai essayé de le faire un peu, mais... Et donc, les Amalfitains financent un hôpital. Cet hôpital est installé à Jérusalem. On sait à peu près où, à l'extérieur, un petit peu à l'extérieur, et donc reçoivent les malades. Il y a une partie pour les hommes, une partie pour les femmes, et c'est là qu'il y a une confusion. On a pensé que c'était les bénédictins qui étaient chargés. Moi, je n'y crois pas, parce que c'est pas une vocation hospitalière, et d'autre part, on le saurait, parce que l'histoire des bénédictins. Donc, ce sont des religieux, et je suis pas le seul à le croire, surtout les travaux de l'historien belge Alain Belgins, lui montre bien qu'il y a un deuxième hôpital a été créé, sans doute parce qu'on en avait besoin, il fallait s'étendre, et que ce deuxième hôpital a été placé sur l'invocation de Saint-Jean-Baptiste. Il est donc en face de la maison de Saint-Jean-Baptiste, la maison de Zacharie, plutôt de son père, et qu'il a été dirigé et confié à un laïc, le fameux Gérard. Donc lui qui dirigeait cet hôpital. Donc voilà le deuxième. Et tout part. Alors maintenant, je reviens à Dupuis, si vous voulez.
Je vous propose de revenir à Dupuis après une première pause. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Je reçois Bertrand Gallimard Flavigny, auteur d'un ouvrage sur l'Ordre de Malte, une histoire de l'Ordre de Malte, paru chez Perrin, et nous parlons des origines militaires et religieuses de l'Ordre, et un des fondateurs, donc qui vient après le père, c'était un père, le père Gérard.
Non, on ne dit pas le père, on dit le bienheureux frère Gérard.
C'était un frère. Oui. Donc le bienheureux frère Gérard. Vient donc Raymond Dupuis, qui lui est considéré comme le premier grand maître de l'ordre.
Il n'est pas considéré, c'est le premier maître élu. Je dis maître parce que le titre de grand maître, c'est un titre, a été concédé par le pape un siècle plus tard, 1235 je crois. Donc c'est le premier maître, comme les Templiers avaient un maître, après ils ont eu un grand maître. Dupuis a été élu parce qu'il a bien fallu, une fois que lorsque le frère Gérard est mort, ils ont trouvé un successeur. Alors je vous passe les détails, donc Dupuis a été élu, on le sait, il a eu une importance très très importante parce qu'il a véritablement mis en forme la règle qu'allait conduire jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les transformations à travers les siècles qui conduit la vie des hospitaliers, et c'est lui qui a décidé d'ajouter aux trois vœux de religion celui de la défense de la foi par les armes. Donc ce nouveau vœu militaire. Donc nous sommes un ordre religieux, et qui devient militaire.
C'est une transformation, la capitale.
Qui a été commencée par les Templiers, sans façon capitale, car, comme je l'évoquais tout à l'heure dans la première partie de cette émission, on ne pouvait pas imaginer qu'un religieux puisse prendre une épée et tuer son prochain, même si c'était un musulman.
Et quelle est l'évolution des Templiers? Elle est antérieure? C'est-à-dire, ce sont les Hospitaliers qui copient en quelque sorte, ou qui jouent le même rôle que les Templiers?
Ce sont deux choses différentes, mais qui vont se rejoindre dans leur action, car les Hospitaliers soignent les malades, ont toujours soigné les malades, même lorsqu'ils faisaient le coup d'épée, alors que les Templiers ont toujours assuré cette police. Le mot n'est pas très juste, mais il est plus facile à comprendre. Et vous en avez un troisième, les Teutoniques, qui sont arrivés à peu près, vers 1165 à peu près, et les Teutoniques ont pris l'organisation des Templiers, car la règle n'est pas la même, l'organisation des Templiers, et la règle religieuse des Hospitaliers, qui est fondée sur Saint-Augustin.
Alors, il y a trois classes dans l'ordre des Hospitaliers, et vous expliquez que là, ce sont les Templiers qui ont repris ces trois classes. Quelles sont ces trois classes?
Alors, les trois classes, non, ce n'est pas les Templiers qui l'ont prise, c'est que c'était finalement les trois classes qui étaient dans la société médiévale, donc les classes qui ont été mises en évidence par Georges Duby. Contrairement à la classe, on dit toujours que la première classe, ce qu'on a retrouvé dans le royaume français, donc la première classe, c'est l'Église, la deuxième, c'est la noblesse, et le troisième, c'est le tiers-État que chacun connaît. Or, là, dans l'ordre, je dis ordre, les Hospitaliers. La première classe ou catégorie, comme l'on veut, est celle donc des chevaliers, donc qui sont des frères qui prononcent des vœux. La seconde, ce sont les chapelains, qui sont des prêtres qui admettent ces sacrements. Et la troisième, ce sont les servants d'armes, ceux qui font un petit peu le boulot plus difficile. Mais tous les trois, ces trois classes, sont membres complets de l'ordre et assuraient les mêmes services auprès des malades.
Comment entrait-on dans cet ordre?
À l'origine, on y entrait parce qu'on était là et qu'on rentrait dans l'ordre. Il n'y avait pas la question de produire un arbre généalogique. En revanche, il fallait être un homme libre. C'est important. Donc, il ne fallait pas être un serf, attaché comme les paysans attachés à
un serment
de fidélité et issu d'un mariage légitime. Alors, c'est arrivé plus tard parce qu'il faut quand même savoir que le mariage, il est quand même assez récent. Donc, il y avait le mariage pour les grands, mais donc, si, c'est peu à peu structuré parce qu'il le fallait bien. Et quand on regarde les procès, parce que déjà d'un procès pour les entrées des membres de l'ordre au 17e et 18e, par exemple, il faut des dossiers, des enquêtes extraordinaire, il fallait des papiers, des preuves, ça devenait très compliqué.
Est-ce que ce n'est pas justement à cause du fait que l'ordre devient, vous citez un personnage dont j'ai oublié le nom, qui disait qu'à partir du moment où l'ordre s'installe à Malte, cela devient davantage un ordre d'aristocratie qu'un ordre de chevalerie?
Oui, c'est un mot, le personnage, en fin de compte, le personnage peut le révéler ici, personne ne le saura, le dit sans ou pas, c'est un de mes amis qui m'a sorti ça et je l'ai cité, comme si c'était un grand historien, d'ailleurs il sera très surpris quand il se verra cité, mais sa remarque était juste, c'était de dire, jusqu'à Malte, l'ordre était celui de la chevalerie, et arrivé à Malte, c'est celui de l'aristocratie. Oui, mais ça correspond à l'évolution de la société, car cette histoire de l'ordre de Malte ou des hospitaliers, à partir de 900 ans, elle est complètement parallèle, sinon intrinsèquement lié à notre société européenne. Que ça soit le royaume de France, que ça soit les principautés d'Italie, que ça soit les royaumes de Castille et d'Aragon et du Portugal, et les principautés allemandes.
Vous expliquez bien que la formation de l'État maltais est parallèle à la formation des grands États modernes.
Oui, car les hospitaliers à Rhodes se sont retrouvés, ils ne songeaient pas à devenir un État, un royaume. C'était pas leur sujet. Eux, ce qu'ils voulaient, après la chute de Saint-Jean avec la perte des États latins, qui est ressentie comme une catastrophe, mais une catastrophe qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, qui était pire que 1940 pour nous Français. Je pense que c'était pire, on ne s'en rend pas compte. Eux, leur première idée, ils sont allés à Chypre, et leur première idée, c'est de dire, qu'est-ce qu'on fait? Notre vocation, nous, c'est de soigner les malades. Alors, on construit un hôpital. Seulement, on a perdu l'état latin, il faut y retourner. On va quand même pas laisser des Sarrasins garder la maison, de toute façon. Donc, c'est la première chose. Or, ça se passe assez mal à Chypre, car Lusignan, le roi Lignan, ça colle pas. Ça fait un état dans l'état, il y a les Templiers qui sont là, donc ça colle pas. Donc, il faut trouver une autre base, qu'on puisse installer notre couvent. Et là, il y a Rhodes, un peu plus loin, qui appartient aux Byzantins, mais il est très phagocyté par les musulmans, donc c'est le début des Ottomans qui commence à arriver. Donc ils vont prendre Rhodes. Et arrivé à Rhodes, il faut gérer la population, il faut gérer le port, il faut gérer l'approvisionnement. Donc tout d'un coup, ça devient un État. C'est une sorte de royaume. Donc finalement, ben, on va frapper monnaie. Parce qu'il faut faire des échanges, donc on frappe monnaie. C'était cette époque-là. Et donc ils deviennent, alors on ne parle pas non plus de diplomatie, il n'y a pas d'ambassadeur ou autre, parce que ça ne se passe pas comme ça à l'époque. On crée la flotte, d'où la marine de l'ordre, parce qu'on est sur une île. En plus, l'idée, c'est toujours, c'est d'aller, de retourner à Jérusalem. Puis finalement, on comprend que c'est plus possible.
Oui, encore reste là. La marine est extrêmement liée à l'histoire de l'ordre. Je reviens peut-être un peu avant, bien avant l'installation sur l'île de Rhodes, sur les châteaux. Le premier château qu'acquiert l'ordre, c'est en 1137. C'est le château, je ne sais pas si ma prononciation sera bonne, c'est le château Basse-Gibelin, près de Gaza. Il y en aura d'autres de châteaux?
Il y en aura 4 ou 5. Et surtout, le plus célèbre que tout le monde connaît, c'est le Krak. Alors, ce n'est pas eux qui l'ont construit. Il a été construit d'abord par un prince syrien. Ensuite, il a été pris par un prince chrétien. Il a été transformé et terminé et confié aux hospitaliers. Et ce Krak, c'est un monument absolument extraordinaire. C'est une véritable ville. On pouvait loger je ne sais pas combien de personnes et on pouvait tenir 6 mois. Il y avait des salles, il y avait des latrines, il y avait des piscines. C'était absolument extraordinaire. Et là, il est tombé par traîtrise. Parce que tout ça, ça tombe toujours par traîtrise. Et le Krak des Chevaliers a été un verrou militaire très important.
On peut encore le visiter aujourd'hui?
Ah oui, tiens debout, il est toujours là, on peut encore le visiter.
Alors, l'ordre va se développer, les dons vont affluer, puisque le don, vous l'expliquez très bien, dans cette société religieuse, le don est un moyen d'obtenir son salut.
Absolument, oui, on a des grâces, Et d'autant plus que l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem étant considéré, comme vous le disiez tout à l'heure, donc un ordre exemple de l'Église, c'est-à-dire qu'il ne dépend que du pape, donc il est en très bonne position. Là, il est près du Saint-Siège, et les dons affluent. Les dons affluent, d'autre part on soigne les malades, c'est quand même très bien vu.
Le malade est considéré comme un autre Christ en fait.
Exactement. Donc si on soigne le malade, on soigne également le Christ, et les vous le rend.
Ce n'est pas du tout un marché, c'est vraiment...
Non, c'est comme ça.
C'est un acte de charité.
C'est un acte de charité, c'est un acte d'amour. D'ailleurs, chaque acte de charité, c'est un acte d'amour. C'est pour ça que tous ces hospitaliers qui sont entrés dans l'hôpital venaient pour le salut de leur âme, c'était cela. Et tous ces dons, alors il y avait des dons en nature, et des dons qui étaient des maisons, qui étaient des territoires, qui étaient des champs, etc. Et ces dons, il a fallu les gérer. D'où les commanderies. Car on donnait en commande, d'où le mot commanderie, on donnait en commande, c'est-à-dire on donnait en gestion à quelqu'un, ces fameux biens fonciers, et généralement à des hospitaliers un petit peu âgés, ou qui avaient fait leurs preuves, ou pour les récompenser, et qui allaient gérer ces fameuses commanderies que bon nombre de Français connaissent, car forcément, toute maison un petit peu ancienne avec une croix était forcément une commanderie templière, hospitalière un petit peu moins, parce que c'est moins amusant d'avoir une commanderie hospitalière que templière, puis tout ça s'est mélangé, et on est arrivé à un chiffre en Europe assez important au 18e, 650 ou 600 80, avec plus de la moitié en France.
Ce sont de réelles structures économiques, ces commanderies.
Complètement. Structure économique pour l'hôpital lui-même, donc d'où la richesse de l'hôpital, parce qu'on parlait de la richesse des Templiers, mais l'hôpital était également très riche, et également pour le royaume. On l'a vu notamment pendant la guerre de Cent Ans, qui était quand même dramatique pour le royaume, et l'hôpital a réussi à pouvoir entretenir même des familles, même à concéder une partie de ses territoires, de ses biens fonciers à des familles pour qu'elles puissent survivre.
Vous expliquez que dans votre livre, ces commanderies ont véritablement un rôle social, notamment, on dirait même sociologique, elles permettent le repeuplement des campagnes. Le repeuplement, le regroupement des populations.
Parce que lorsque vous avez des famines, lorsque vous avez des guerres surtout, théoriquement, les commanderies ne sont pas attaquées. Je dis bien théoriquement, parce que nos camarades les Anglais n'hésitaient pas de temps en temps à mettre un coup de bombarde, le feu, parce que c'était mal protégé ou autre. Et donc, on était en fin de féodalité, les châteaux forts en question, les châteaux forts ne pouvaient plus cuire les populations. En revanche, ces commanderies étaient respectées et donc pouvaient servir à la fois de refuge et procurer du travail, car il fallait bien cultiver la terre, entretenir les forêts, et c'est pas l'hospitalier qui le faisait tout seul. Dans nos livres d'histoire, on montre les moines qui sont en train de sarcler et de couper les arbres. Mais ça, c'était bien avant. Là, nous sommes au XIVe siècle.
Alors, y avait-il au-dessus de ces commanderies une organisation supérieure? C'est ce que je vous propose de voir, Bertrand Gallimard-Flavigny, dans un instant.
Qui porte l'habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert?
Le portrait?
Le parcours?
La rencontre?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque?
Sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Bertrand Gallimard-Flavigny, auteur d'une histoire de l'ordre de Malte parue aux éditions Perrin. Alors nous venons d'évoquer les commanderies. Y avait-il une structure supérieure pour diriger toutes ces commanderies?
Oui, ce qui est remarquable dans l'hôpital, c'est cette hiérarchie, cette organisation extraordinaire. C'est une administration, et c'est pour ça qu'elle a tenu d'ailleurs, parce que tout était lié. Nous parlons des commanderies qui étaient un petit peu à la base, mais quand il y a un certain nombre de commanderies, il a fallu qu'il y ait une super commanderie, donc un prieuré. Et puis il y a eu plusieurs prieurés, duquel dépendaient des commanderies. Et puis finalement, il y a eu un grand prieuré qui, lui, dirigeait un petit peu tout. Et donc ces grands prieurés étaient le fait, mais pour une seule région, pour une seule langue.
La langue étant l'équivalent de la nation.
L'équivalent de la nation, mais la nation parlée. Et puis au-dessus, vous aviez le couvent donc, qui était à Rhodes, et puis ensuite à Malte, avec le conseil. Maintenant, on dit souverain conseil, avec le conseil, le grand maître, qui est un prince élu, qui était élu par ses pairs. Alors, c'est même très compliqué.
Oui. Celui qui était à la tête de la commanderie, on l'appelle le commandeur?
Le commandeur.
Alors, vous expliquez dans votre livre qu'il y avait des commandeurs qui vivaient aisément, d'autres très richement, et d'autres, au contraire, qui étaient non pas dans la misère, mais...
Oui, alors il y a également une évolution, si vous voulez, parce que quand vous prenez l'hospitalier du XIIIe siècle, celui du XVe siècle, celui du XVIIe, celui du XVIIIe, dans le fond, ce ne sont pas les mêmes bons hommes. Ça a été un petit peu comme nous, nos ancêtres, entre celui qui était pays ans au 14e, celui qu'il était dans les siècles futurs, ils étaient différents. Alors, cette évolution des commanderies, il y a eu un jeu un peu peut-être coupable qui est intervenu vers la fin du 17e et surtout 18e. Les commanderies ont permis à un certain nombre de chevaliers qui n'avaient pas tellement la vocation de devenir religieux, mais dans le système de l'époque, l'aîné reprenait la maison, le second allait à l'armée, le troisième dans l'église et éventuellement le quatrième chevalier de Malte. Encore que cela coûtait quand même cher parce qu'il y avait un droit de passage. Et je cite une lettre du chevalier de Sabas, et qui écrit à sa mère, et qui lui dit « Madame, je vous remercie de la canne à pommeau d'or que m'avez fait envoyer et que j'offrirai au grand maître, afin qu'il puisse me remarquer et me donner une commanderie. À partir du moment où j'aurai cette commanderie, nous pourrons vivre aisément, sans difficulté. » Voilà, à peu près, je résume. Car c'était le système, mais on va pas critiquer le système. Alors, il est exact qu'il y avait des commanderies qui étaient riches et des commanderies qui étaient pauvres. Et on le voit bien. Mais comme les prémendes de un certain nombre d'abbés avaient des bonnes abbayes et d'autres de mauvaises abbayes. La distribution bousculait un petit peu pour essayer d'avoir les bonnes. Mais ça, c'était le système qui est comme cela. Il faut se remettre complètement dans le contexte de l'époque pour bien le comprendre.
Alors, nous voyons toute cette structure, toute cette organisation. Et il y a une question qui me semble très importante, c'est le pouvoir d'un tel ordre. C'est un ordre qui a un pouvoir financier. Quelle était la nature de ce pouvoir, la qualité de ce pouvoir? On peut comparer, et vous le disiez tout à l'heure, l'histoire des hospitaliers parallèle à celle des Templiers. Les Templiers, on connaît le sort qu'ils ont subi. Pourquoi les hospitaliers n'ont-ils pas subi un tel sort? Est-ce que l'État dans l'État était moins important que l'État dans l'État que représentaient les Templiers?
Alors, tout à l'heure, je vous disais, 1291, perte des États latins. Catastrophe épouvantable.
C'est une perte de légitimité en soi.
Ah, c'est une perte. On a perdu la terre du Christ. Donc, il y a forcément un coupable. Alors, on pense, il faut recréer une chevalerie pure. Donc, on regroupe tous les ordres de chevalerie dans un seul, et on met dans un seul ordre, et on met à sa tête un prince, forcément un prince, donc à l'esprit pur, et on repart à la conquête. Donc, voilà, c'est l'idée. Et c'est amusant parce que il y a un certain Nogaret qui pense là. Bon, il changera d'idée après. Et cette idée va quand même passer parce que à un certain moment, le pape essaye de faire fusionner Templiers et Hospitaliers. Évidemment, ça marche pas. On peut pas imaginer. C'est pas les mêmes choses. Et là, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que les hospitaliers, eux, disent « notre vocation, l'hôpital. Donc, on va s'occuper de notre hôpital et on faut trouver une base pour retrouver. » Donc, ils vont à Rhodes. Donc, ils sont occupés. C'est-à-dire qu'ils continuent ce qu'ils ont à faire. Les Templiers n'ont plus de fonction, d'une certaine manière. Ils font plus la police en Terre Sainte, puisqu'il n'y a plus de Terre Sainte. Donc ils sont là.
C'est le sens de la perte de légitimité.
Il y a une perte de légitimité, une perte de légitimité, et d'autre part, vous parliez d'éternel État, c'est très juste, et Demurger l'a bien souligné, je pense, en synthèse, c'est qu'il fallait un coupable. Bon, voilà, donc les Templiers, c'était parfait, c'était très bien, d'autant plus qu'ils devaient de l'argent à Philippe le Bel. Donc il y a tout un contexte. Et ils menaçaient le pouvoir. Donc il n'y avait plus de place pour des royaumes, des souverains qui prenaient de l'importance, plus de place pour un souverain et puis un ordre, comme ça s'était passé d'ailleurs à Chypre, entre Lusignan et les ordres. Et là, les Templiers, ils l'ont ramassé et ils ont été très maladroits. Ceux qui sont passés sur le bûcher, c'était ceux qui étaient relapses. On n'en a pas brûlé beaucoup, finalement. Enfin, un certain nombre. Jacques de Molay aurait pu très bien être sauvé, mais il est revenu sur ses déclarations, puis là, à l'époque, et on a raconté beaucoup de choses. Alors, on a raconté beaucoup de choses aujourd'hui, alors soyons sérieux, laissons les Templiers tranquilles avec un certain nombre d'idées reçues, cracher sur la croix, baiser les fesses, etc. On pense que c'était pour vraiment éprouver la foi et l'obéissance des nouveaux Templiers. Mais là, je vous recommande de lire les bouquins de Demurger, sans les Templiers, vous en saurez beaucoup plus que je pourrais en dire. Alors, les hospitaliers, eux, ils bossaient de leur côté. Ils étaient presque aussi fortunés, si ce n'est plus, que les Templiers. Si les biens des Templiers ont été dévolus aux hospitaliers, c'est pour simplement pour une raison de droit canonique. Quand un ordre de religieux disparaît, ces biens vont à un autre ordre religieux. Alors, il y avait des décisions un petit peu politiques et diplomatiques, c'est-à-dire que le pape ne voulait pas que les biens des Templiers tombent dans l'escarcelle des souverains, donc, et en plus donner en compensation aux hospitaliers les moyens éventuels de retourner à Jérusalem, enfin à l'État latin. On n'en perd jamais cette idée. Les souverains français ont mis des bâtons dans les roues aux hospitaliers pour leur rétrocéder les biens Templiers. Ça a duré près d'un siècle, ça aura coûté très cher. C'est une véritable escroquerie qui a été commise par les Valois. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre, mais ça a mis un certain temps.
Mais ils n'ont pas tremblé, ces hospitaliers, de voir ces Templiers se faire condamner?
Écoutez, ils n'ont pas trop fait de bruit. Ils n'ont pas trop bougé. Eux étaient occupés en même temps à consolider leur position à Rhodes, parce que quand ils sont arrivés à Rhodes, ils ont mis quand même un certain temps pour avoir Rhodes, 1309, 1310, et ils ont vraiment été installés en 1312, pendant toutes les années des jugements des Templiers. Exactement, donc ils étaient là-bas.
Alors, justement, venons-en donc à leur parcours. Ils passent par Rhodes, avant ils passent par Chypre, mais ce n'est qu'une étape, c'est cela ?
C'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape parce que tout le monde est emparé. C'est une étape, et là, bon, ils vont à Rhodes.
Alors, l'idée de croisade en elle-même va persister dans les consciences à travers les siècles?
Alors, d'abord, l'idée de croisade, c'est une invention des historiens très tardive. Pour eux, ils n'étaient pas partis avec l'idée, pour les croisades, c'était délivrer le tombeau du Christ. Donc, évidemment, qui s'opposait, aller passer par les périr, par les armes. Donc, c'est essentiellement Jérusalem, la ville sainte, et délivrer le tombeau du Christ. Il y en a un qui nous a coûté fort cher, et qui nous coûte encore fort cher, qui lui a été un personnage abominable et un parjure, c'est Châtillon. Châtillon était un des princes de l'époque, et lorsque, après la bataille, donc de Hattin, c'était en 187, donc c'était une catastrophe car les chrétiens ont été défaits. Donc Saladin, le fameux Saladin, celui qui réussira à prendre Jérusalem et ensuite entièrement la Terre Sainte, Saint-Jean d'Acre, Saladin donc a fait prisonnier le maître du temple et puis le roi, et il apporte, et donc il y a Lusignan, Ridford, c'est le grand maître, et le fameux Châtillon. Lusignan est là, Saladin lui tend une coupe, ça veut dire qu'il lui donne la vue sauve pour boire. Et il boit, et il passe la coupe à Châtillon. À ce moment-là, on raconte que Saladin, dit non pas lui, fait tomber la coupe par terre, et aussitôt on s'empare de Châtillon, on lui coupe le cou. Mais pourquoi Châtillon lui voulait autant? C'est vrai qu'il était à parjure, mais il avait eu l'idée d'aller prendre Médine et la Mecque. Et ça, les musulmans lui ont jamais pardonné, Saladin, et on le paye encore. Lorsque vous avez, de temps en temps, je fais une incidence, de temps en temps, quelques propos de la part de journaux ou de presse, donc palestinienne ou autre, et on les dit oui, les croisés, les croisades, mais c'est à Châtillon qu'ils font référence. Ça, on l'oublie parce qu'on peut pas tellement l'expliquer. Et donc c'est là, c'est le reproche fait aux croisés, c'est-à-dire à Châtillon, mais eux, finalement, ne font pas la différence, qui a voulu aller à la Mecque. Jamais. Jamais, compte tenu de l'époque, jamais, il est bien évident que jamais, ni Lusignan, ni Baudouin n'ont eu l'idée d'aller à la Mecque, c'était pas le sujet. C'était Jérusalem, la ville sainte. Alors, manque de chance, elle a été prise par les musulmans, manque de chance, il y avait la mosquée d'Omar, et Jérusalem, et donc voilà l'idée de croisade.
Alors, une idée qui est très importante dans votre livre, que vous reprenez plusieurs fois, c'est les liens qui peuvent exister en dehors des conflits militaires entre les musulmans et les chrétiens.
Oui, ça c'est quelque chose que je voudrais faire un aveu, je crois que je n'ai pas vraiment réussi, je l'ai dit, je l'ai fait, je l'ai développé, mais j'aurais voulu aller encore beaucoup plus loin. Entre les Ottomans, donc entre les musulmans et surtout les Ottomans ensuite et les hospitaliers, ce fut des bagarres absolument incessantes. Pour une bonne raison, c'est que dans le fond les hospitaliers étaient les chiens de garde de la Méditerranée, les chiens de garde des chrétiens, qui empêchaient les Ottomans, puis les barbaresques d'Alger, qui étaient leurs alliés, de pénétrer plus avant dans le monde occidental chrétien. Il faut quand même pas oublier que les Ottomans sont arrivés donc à Vienne en 1686 et que ça a été la dernière fois qu'ils sont arrivés là. Les pentes 1571, et quand même, on a continué encore. Bon, là, c'est encore un autre sujet. Malgré tout, c'était des combattants. Après la chute de Rhodes, l'Ottoman dit au grand maître Villiers-le-Dedans, l'appelle mon père. C'est une phrase diplomatique, mais il y avait une sorte de respect. J'ai vu à Malte, chez un particulier, un tableau qui m'a beaucoup impressionné. C'est un tableau qui date de 1725 à peu près, où l'on voit la place qui se trouve devant le palais des grands maîtres, à La Valette. Il y a une foule, et dans la foule, il y a des Ottomans. Avec les turbans. Ce ne sont pas des esclaves, hein. On voit que ce sont des marchands, ce sont des Ottomans. On entend aussi dire qu'un tel a été prisonnier, un tel Ottoman ou barbaresque a été prisonnier et qu'un autre est venu à La Valette pour le racheter. Je cite une lettre d'un commandeur qui s'adresse à M. de Lille, l'ambassadeur du roi de France. Là, on est sous Henri II et qui lui demande d'intercéder auprès de la Sublime Porte afin de pouvoir libérer deux chevaliers et un servant d'armes qui s'est égaré. Alors, bien sûr, il y a bon nombre d'hospitaliers ou de chevaliers qui ont été massacrés par les Ottomans. Bien sûr, il y a beaucoup de Ottomans qui ont été massacrés par les hospitaliers. Bien sûr, il y a énormément de bâtiments et de bateaux ottomans qui ont été coulés par le fond ou pris et vidés par les hospitaliers et à l'inverse. Ça, si vous voulez, c'est une guerre de course. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Donc on faisait le commerce, mais c'était assez risque des périls. Et les hospitaliers étant là, les bâtiments de commerce vénitiens et génois et ensuite français, pouvaient fonctionner parce que les hospitaliers étaient là. Donc d'où la puissance à la fois diplomatique, qui s'est peu à peu intensifiée à la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, et la puissance donc maritime, qui jouait. Donc les pentes, on est peut-être l'ultime point. Mais pour les Ottomans, les pentes, bon, écoutez, moi j'ai interrogé une de mes amies turques, avec lequel j'étais en fac, qui est maintenant écrivain, comme on a suivi le même parcours, mais elle est en Turquie, et je lui dis, mais au fait, les pentes, d'abord les pentes, ça s'appelle pas les pentes chez nous, c'est un autre nom. Bah écoute, c'est une des innombrables batailles qu'on a gagnées ou qu'on a perdues. Bon, celle-là était un peu plus sanglante, mais je me souviendrai toujours de la fameuse phrase, vous nous avez rasé une moustache, donc en prenant Candy, et nous, vous avez coupé un bras, donc...
Il y a tout de même une ambiguïté, hein. Vous citez Nicolas Vatin qui disait à la fois souverain d'un petit archipel commerçant riverain des côtes musulmanes et membre d'un ordre militaire dépendant directement du pape et tirant d'Europe le principal de ses ressources, l'ordre de Malte réussit au total à maintenir l'équilibre entre des obligations contradictoires. Il y a une réelle ambiguïté et cela montre que l'histoire est plus complexe qu'on le croit.
Ça devient l'origine, vous avez un ordre religieux car les chevaliers de Malte étaient religieux, ils annoncer des vœux de religion, hein, c'est-à-dire pauvreté, obéissance, chasteté. Documente. Mais après tout, ce sont des hommes, et des hommes d'époque qui sont différentes de la nôtre. Il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas juger un chevalier du 18e en disant, oui, ils étaient complètement décadents, d'ailleurs, ils avaient des maîtresses ou autre chose. D'abord, c'est nous qui disons qu'ils étaient décadents, ils ne sont pas du tout décadents. Et ça, c'était une bagarre. Oui, les chevaliers ont eu des maîtresses. Oui, le clergé a eu des maîtresses. Oui, les religieux vivaient parfois sur un pied important. Mais d'autres, non. Mais ils obéissaient. Ça collait pas, c'est quand ça collait pas. Et puis nous avons, comme je vous disais, nous avons toute notre histoire. Alors l'ambiguïté, oui, c'est que nous avons un ordre religieux qui est également militaire. C'est un exemple absolument unique. C'est un petit peu incroyable. Ces militaires, aujourd'hui, on dit toujours ordre militaire, il est bien évident que les chevaliers de Malte n'ont pas de leur colichemar de prêt à aller pourfendre toute personne qui n'est pas, mais cette militaire leur permet d'avoir une organisation et justement une obéissance et un moyen de fonction, donc une règle, c'est un cadre.
Alors, ils ont un rôle, on va sortir du militaire et du religieux, et nous allons, si vous le voulez bien, Bertrand Gallimard Flavigny, nous pencher sur les hospitaliers à proprement parler, leur rôle premier, le sort des malades, après une dernière pause. À tout de suite.
Canal Académie.
Je reçois Bertrand Gallimard Flavigny, auteur d'une histoire de l'ordre de Malte, parue aux éditions Perrin cette année. Alors, nous avons évoqué cet ordre militaire, cet ordre religieux, mais il ne faut pas oublier, hein, on ne le dira jamais assez, que c'est un ordre tourné vers les malades, vers le soin des malades. Qu'est-ce qu'un hôpital à l'époque médiévale, Bertrand Gallimard Flavigny ?
Un hôpital, c'est d'abord une maison d'accueil. Parce que la notion de soin était quand même très différente de celle que nous avons aujourd'hui. On soignait, mais on ne guérissait pas, finalement. On guérissait quand même, mais la notion d'aujourd'hui, on soigne, on guérit. Donc le médecin va guérir. On lui demande d'ailleurs de nous guérir. Mais il ne peut pas le faire.
Aujourd'hui, il a quasiment une obligation de résultat.
Tandis qu'à l'époque, il n'y avait pas d'obligation de résultat. De toute façon, on était malade, c'est arrivé comme ça, et une sorte de fatum. Donc il y avait le soin.
Il y avait surtout que l'idée de souffrance faisait partie de la vie quotidienne.
Oui, ils souffraient, certes. Bon, j'ai pas leur place, hein, j'étais pas là. Mais on faisait avec, si vous voulez. Donc, on était malade, on avait mal, on essayait de trouver un remède, donc, notamment par les simples, par les plantes. Et ce qui est intéressant dans le cas des hospitaliers, c'est qu'ils sont restés quand même assez longtemps en Orient et qu'ils ont suivi les cours de médecine arabe, qui, c'est amusant, sont les héritiers de la médecine grecque. Et un petit peu indienne aussi au passage. Et quand on regarde dans certains hôpitaux dans la future Irak, on prévoit de soigner les musulmans et aussi les infidèles. Or les hospitaliers soignaient les chrétiens et les infidèles. Donc il y avait, le soin était donné à tout le monde.
Oui, on respectait le serment d'Hippocrate.
Oui, je pense qu'il ne le connaissait pas, mais, mais même qu'il le respectait. Alors un hôpital, c'était assez extraordinaire, parce qu'on a des témoignages justement de voyageurs arabes. L'hôpital de Jérusalem a continué à fonctionner jusqu'au 15e, 16e siècle, puis on a des témoignages. Donc ça devait être une construction extraordinaire. Et nous avons des photos qui ont été prises vers 1850, qui montrent des ruines quand même de l'hôpital. On voit l'importance, maintenant il ne reste plus rien, il n'y a plus de traces, tout a été détruit. Donc ça a quand même perduré pendant 800 ans, dans le fond. Les murs sont restés debout pendant 800 ans. Et puis peu à peu, c'est l'évolution. Un peu, ça continue. C'est l'évolution. Et j'essayais de trouver, parce que dans le fond, il n'y a pas grand-chose sur la médecine. Il y a un traité écrit par un médecin maltais, Dr Kassar, qui est un traité de médecine à Malte. Puis il y a d'autres médecins, parce que les Maltais sont très intéressés par l'histoire de Malte, qui est leur histoire plus directe, et l'ordre. Et il y a des ouvrages qui sont tout à fait intéressants. Mais sur la médecine, ils ne trouvaient pas grand-chose. Bah oui, ils soignaient, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait qu'un seul malade par lit, qu'on changeait leurs draps tous les deux jours.
Vous donnez un admirable détail où les draps étaient changés, on leur distribuait des pelisses, des pantoufles, on les lavait avant d'entrer dans le... Il y avait une réelle hygiène.
Il y avait une réelle hygiène qu'il n'y avait pas du tout chez nous. En Occident, ça n'existait pas. Alors aussi, on a glosé beaucoup sur le service dans les plats en argent. Ben, les plats en argent, pourquoi ? Tout simplement parce que si vous prenez une assiette pas chère en grès pour la nettoyer, vous avez forcément toujours des saletés qui restent. Donc pour un malade, ça colle pas. Tandis que vous prenez l'argent, d'abord on pensait que c'était aseptique. Mais pour nettoyer, c'est mieux. C'était pas simplement un acte de richesse, non seulement, c'était une question d'aseptie, simplement. Et donc on les soignait par les simples. Il y avait aussi l'isolement quand il y avait les quarantaines, ce qui a évité quand même des catastrophes à Malte. Et alors j'ai essayé de chercher. Je me suis dit, on dit toujours que la médecine à Malte était inventive, était avancée. Mais je savais pas. C'est vrai qu'à Malte, je dis bien à Malte, Il a été créé une université de chirurgie, une université de pharmacie, une université de médecine, qu'on pratiquait la dissection. Donc vraiment une avancée médicale. Mais bon, une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Alors on dit aussi qu'on a pratiqué l'opération de la cataracte, qu'on venait de l'Europe entière. Pourquoi? Parce que le médecin qui a trouvé le moyen d'opérer la cataracte était maltais, mais il a exercé en Autriche. C'était le premier maltais qui a été titulaire d'une chaire. Alors je suis parti, je me suis dit, si on a publié, imprimé à Malte, un ouvrage sur la médecine, c'est intéressant. Deux ouvrages sur la médecine, ça devient un peu plus intéressant. Trois ouvrages sur la médecine, on rentre dans la statistique. Il y en a beaucoup plus. Mais essentiellement 18e, pas avant, pourquoi? Alors, j'ai trouvé des choses assez amusantes. Enfin, pour moi, c'était amusant. La première presse a été installée à Malte vers 1640. Je dis bien vers 1640. L'imprimerie a été inventée en 1455. C'est quand même très loin. Alors, bien sûr, on a imprimé en Sicile. Alors pourquoi pas d'ouvrages de médecine, alors qu'il y a des ouvrages sur la fameuse dent de serpent, le remède de Saint-Paul, etc. Ben parce que l'Inquisition était là, l'Inquisition n'aimait pas beaucoup la médecine. Mais tout d'un coup, fin 17e, début 18e, il y a une explosion de livres, une explosion raison gardée, donc un ensemble d'ouvrages, qui sont composés par des médecins et qui publiaient également à Paris et à Londres. Donc vous avez un ensemble. Alors c'est une information. Bien sûr, c'est une formation. J'ai pas lu ces traités qui sont en latin, qui traitent de maladies et autres. Mais il y avait effectivement, véritablement, un foyer d'intérêt et d'évolution d'études de la médecine.
Alors, nous commencions l'émission en parlant de l'Europe, en disant que l'ordre était un ordre finalement européen. Nous n'avons pas évoqué la marine, mais nous pourrions en parler là aussi des heures. Il y a cet aspect médical. L'ordre de Malte est un ordre en avance sur son temps?
Oui, parce qu'il a un tel passé qu'il peut y aller. C'est-à-dire qu'il puise tellement dans son passé, et aujourd'hui c'est une grosse machine qu'on pourrait penser être figée, mais sur le terrain, vous avez des financements à Dakarfan étant de refaire le pavillon consacré aux lépreux, vous allez à Rochefort qui reçoit des handicapés, vous allez à Roquetaillade également des handicapés avec des autistes, vous avez l'école des ambulanciers, je parle de la France, hein, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin en plus, parce que c'est quand même tout le monde. Je fais une petite parenthèse, si vous voulez, c'est que l'ordre est composé, vous avez le gouvernement qui est dans Malte, je dis bien dans Malte parce qu'il y a privilège d'exterritorialité, et à l'intérieur donc du grand magistère, vous avez un souverain conseil. Dans le souverain conseil, vous avez le grand hospitalier qui dirige toute l'activité hospitalière. Ensuite, dans chaque pays d'association, on a une quarantaine, vous avez une association nationale. Et chaque association nationale a une association d'œuvres qui fonctionne à la fois autonome et en même temps en relation. Donc ça donne un éventail très important. Et en France, donc, il y a un certain nombre d'activités. Vous avez une péniche, une deuxième qui est bientôt en construction, qui accueille les sans-logis avec leur animal. Ce qu'on ne trouve pas par ailleurs. Et vous avez un SAMU social de l'ordre de Malte qui fonctionne notamment à Boulogne. Vous avez donc de l'action. Vous avez de l'action et vous la trouvez en Espagne, une autre action, vous la trouvez en Italie, vous trouvez des secouristes également en Allemagne, en Irlande, aux États-Unis. Et vous les retrouvez tous au pèlerinage international de Lourdes. Il y a un pèlerinage national de l'ordre de Malte où il y a à peu près 5000 personnes, un peu plus parfois, qui viennent. On est parfois deux ou trois membres de l'ordre autour d'un malade. Mais pour eux, c'est formidable parce que pendant 4 jours, 5 jours, ils sont totalement pris en charge et autrement que dans leur maison de repos ou ailleurs.
Eh bien écoutez, Bertrand Gallimard-Flavigny, je vous remercie. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Là, j'ai sous les yeux les annexes. Les annexes sont très importantes dans cet ouvrage et notamment une annexe sur l'ordre aujourd'hui qui montre que l'ordre de Malte est bien présent dans notre société contemporaine. Donc, je redonne le titre de votre ouvrage, Histoire de l'ordre de Malte, paru aux éditions Perrin, donc par Bertrand Gallimard-Flavigny. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, au revoir.